Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir avec Mélissa Chemam de la rédaction anglophone.
Good evening.
Vous ferez un bilan des 9 mois passés au pouvoir par les militaires nigériens depuis leur putsch. Pour la rédaction brésilienne, Lucia Mouzel.
Bonne nuit.
Vous reviendrez sur les manifestations à Brasilia pendant une semaine des peuples autochtones qui réclament une protection. Et puis Denis Strelkov de la rédaction russe.
Dobry vecher.
Vous avez réalisé un film qui raconte le combat de soldats français engagés sur le front en Ukraine au sein de la Légion internationale. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est bien sûr ce nouveau plan d'aide américain à l'Ukraine. 61 milliards de dollars, un plan approuvé par le Congrès. Le président ukrainien demandait depuis fort longtemps de l'argent pour acheter des armes et des munitions qui manquent pour que ses soldats puissent contenir l'armée russe, notamment à l'est du pays. Denis Strelkov, sur ce qui va aider justement le plus les Ukrainiens.
En fait, l'équipement militaire lourd, il est vulnérable s'il n'y a pas de défense antiaérienne. Donc ce qui compte, c'est l'ampleur de l'aide fournie à l'Ukraine. Mais une chose qui compte plus que d'autres, ce sont des missiles longue portée qui peuvent toucher les cibles loin de la ligne du front. C'est une ligne rouge qu'il n'a pas franchir il y a encore quelques mois. On apprend par les médias que ces missiles ont été déjà livrés en toute discrétion et ont déjà même été utilisés pour frapper une base aérienne en Crimée. Ce qui va compter le plus maintenant, c'est aussi la rapidité de livraison de l'aide à l'Ukraine. Nous ont dit à Kiev, les annonces, on les a entendues beaucoup, mais une partie importante du matériel annoncé par les Européens n'est jamais arrivée. Le temps, c'est l'essentiel, insistons, en Ukraine.
Quelle est la réaction des médias russes contrôlés par le Kremlin, on va le rappeler, à ce qui pourrait influencer le cours de la guerre?
L'essentiel pour la propagande russe, c'est de minimiser l'effet que ça aura sur le terrain. C'était la réaction du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Cela ne fait qu'augmenter les souffrances du peuple ukrainien, selon lui, sont les États-Unis des grands profiteurs de ce conflit. J'accasse les médias contrôlés par le Kremlin, comme vous venez de le rappeler. La guerre est réaffirmée la position de Washington dans le monde, mais quant à l'Ukraine, impossible de le sauver, répètent des journalistes. Pour eux, l'Ukraine sera vite oubliée. Tous ces témoignages vont à l'encontre de tout ce que la presse occidentale dit sur l'aide américaine, bien évidemment.
Lucia, sur ces 61 milliards d'aides, vous avez remarqué qu'une partie de ce montant, donc 10 milliards de dollars, sera versée à l'Ukraine sous forme de prêt.
Exactement, une exigence de l'ancien président Donald Trump, sans laquelle les alliés, ses alliés au Parti républicain, n'auraient pas accepté ce projet. Pour lui, les États-Unis doivent cesser de donner de l'argent aux autres sans espérer d'être un jour remboursés. En théorie, donc, ces 10 milliards de dollars d'assistance économique, notamment pour les secteurs de l'énergie et les infrastructures ukrainiennes, pourront être réclamés par le gouvernement américain dès 2026, mais le texte stipule également que d'ici là, Washington pourra décider de pardonner cette dette.
Mélissa, vous vous êtes intéressée, vous, aux réactions que ce gros chèque suscite dans le monde. Chez certains dans le monde anglo-saxon, ce plan inquiète.
Oui, des voix américaines craignent par exemple que les Ukrainiens utilisent ces armes à longue portée dont parlait Denis pour frapper à l'intérieur du territoire russe, provoquant ainsi une escalade du conflit, c'est ce qu'a noté la chaîne NBC. La BBC au Royaume-Uni, elle, a relevé aussi donc que ces armes balistiques à longue portée ont été fournies secrètement par les États-Unis et déjà utilisées. Elles faisaient partie du programme précédent de soutien des Américains, sont arrivées en avril et les preuves ont été faites qu'elles ont été utilisées au moins une fois pour framer des cibles en Crimée occupée.
L'Ukraine qui attend également plus de soutien de la part de l'Europe et du Royaume-Uni, Mélissa.
Oui, le quotidien The Guardian a cité dès mercredi les déclarations belliqueuses du ministre des Affaires étrangères ukrainien qui a affirmé que l'Occident doit renforcer sa défense car l'ère de la paix est terminée, selon lui. Donc ça veut dire qu'il attend plus de la Pologne, par exemple, la Grèce, l'Allemagne et bien sûr le Royaume-Uni. Alors le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a promis une aide supplémentaire de 500 millions de livres sterling, ce qui serait sa plus grande contribution à ce jour. Et pour le think tank britannique Chatham House, cela ne suffit pas parce qu'il faut une vraie stratégie. Par exemple, l'aide arrive souvent avec 6 mois de retard et il n'y a aucune raison que cela ne se répète pas. Donc, selon le think tank, il faudrait un meilleur plan pour une fourniture cohérente de l'aide. Sinon, l'Ukraine se trouvera tôt ou tard dans une situation critique.
Lucia, votre éditorialiste de politique internationale, souligne lui que s'il a fallu de longs mois et de nombreuses tractations pour arriver à ce plan, c'est à cause de tensions vives au sein même de la classe politique américaine.
Oui, Thiago Diaragão, basé à Washington, nous rappelle que pendant la séance à la Chambre des représentants, les démocrates brandissaient le drapeau ukrainien sous les huées de la partie la plus à droite des républicains. En fait, c'est l'équilibre entre la souveraineté nationale et la responsabilité globale des États-Unis qui est en train d'être joué, affirme cet analyste, pour une partie des républicains, dont le président de la Chambre, Mike Johnson. Le soutien aux alliés américains dans le monde est un impératif moral et stratégique, mais pour Donald Trump et des élus comme Marjorie Greene, ce type d'aide n'est que du gâchis de l'argent des Américains, en montant qu'il valait mieux d'être investi dans leur propre pays.
Voilà donc pour cette aide massive américaine pour l'Ukraine dans cette guerre. Je reviens vers vous, Denis Strelkov, de la rédaction russe. Des milliers d'étrangers venus du monde entier se battent actuellement aux côtés des soldats de Kiev. Ils se sont engagés pour cela dans la Légion internationale. Alors vous avez réalisé, Denis, un film sur ces Français qui se battent pour l'Ukraine. Qui sont-ils ?
Les noms d'appels de personnages de notre film, c'est Joe, Paco et Léon. Le dernier a choisi ce nom car il ressemble beaucoup à Jean Reno dans le film Léon. Leur ressemblance est frappante. Ils sont pour l'instant en France, après de longs mois passés en Ukraine. On les a retrouvés à des endroits différents, sur le Côte d'Azur et dans les Alpes. Leurs interventions dans les médias sont très rares, donc on a profité de cette occasion pour poser toutes les questions qui nous intéressaient sur leur engagement et leur motivation, mais aussi sur l'état de l'armée ukrainienne et les situations sur le front.
Alors, avant de nous en dire plus, comment est-ce que vous avez trouvé ces volontaires ?
Leurs noms, vous pouvez en fait les retrouver sur Internet. Ils ont été rendus publics par la Russie. En effet, pour Moscou, ces trois personnes, ainsi que d'autres Français, sont mortes. Ils ont été, selon les sources officielles, tués par une frappe à Kharkiv en janvier 2024. Sauf qu'ils sont très bien en vie. Ils ont déjà été en France à ce moment. Voici la réaction de Paco au moment qu'il a appris ces nouvelles.
D'abord, en regardant mon téléphone, d'un coup... beaucoup de messages qui disent « Ah ben, je viens d'apprendre que t'es mort ».
Donc
ça
vous donnez
plaisir,
la parole à Joe, à Paco et à Léon dans votre reportage. Quels étaient leurs métiers avant de partir en Ukraine et pourquoi d'ailleurs ils ont décidé d'y aller ?
En fait, c'est très différent pour chacun. Léon, qui habite dans les Alpes, lui, a été militaire avant et il s'est reconverti dans la fourniture de l'équipement pour la restauration. Les autres n'ont eu aucune passé liée à l'armée. Ils travaillent dans le transport et la logistique. En plus, ils n'ont jamais tenu une arme. Ils n'ont jamais tenu une arme avant de se rendre en Ukraine. Quant à leur motivation, ils sont de l'ordre idéologique, allant de protéger l'Ukraine contre les barbares à protéger l'Europe contre la Russie. Ce qui est sûr, c'est que l'argent ne fait pas partie de la raison pour aller se battre. Et ça, c'est de plus ou moins pareil pour tous les Européens engagés sur le front. Leur salaire en Ukraine s'élève à 2 000-3 000 $, selon la proximité de la ligne du front. Tous nous disent qu'ils gagnaient à peu près cette somme en France. Mais ce qui étonne le plus, c'est que l'équipement, l'évitement, les protections personnelles et même les viseurs optiques, les soldats venus de l'étranger achètent eux-mêmes. Et cela revient très cher, très vite. Donc, ne pas revenir en négatif, c'est déjà beaucoup pour eux.
Donc, ce n'est pas des mercenaires à proprement parler. Est-ce qu'on sait combien de Français se battent actuellement pour l'Ukraine ?
Difficile à donner un chiffre précis, car cette information n'est pas partagée par les autorités ukrainiennes. La France, quant à elle, n'a aucune autorité sur ces personnes. Ils vont de leur propre gré, ils n'ont aucune statut spécial en France. Puis, ils arrivent, ils repartent. Mais il y a des centaines de Français, ce qui est sûr. On les a demandé, ceux qu'on voit le plus sur le front.
J'étais le seul Français. On avait une Autrichienne, on avait Norvégien, Suédois, Mexicain. Du coup, on a eu des îles Féroé, des gens, franchement, même des pays que je ne connaissais pas, du coup.
Colombie, Brésil, Pérou, Argentine.
Il y avait énormément de Biélorusses, énormément de Géorgiens, énormément d'Américains. Quelle nationalité j'ai pas rencontré ? C'est plus ça la question.
À l'époque, on était sur une compagnie d'environ une centaine d'hommes, on était 5 Français.
Parmi ces personnes, les profils sont très différents. Il y a aussi des personnes qui étaient militaires à l'armée de leur pays à l'époque et puis qui sont battus depuis des décennies dans différentes guerres, étant engagés par des forces armées. Il y a aussi des jeunes qui font ça pour des sensations, pour de l'adrénaline.
Est-ce qu'ils vous ont raconté également leur quotidien sur la ligne de front ? Quelles sont les missions de la Légion étrangère en Ukraine ?
Les soldats étrangers engagés sur le front ont les mêmes fonctions que les soldats ukrainiens. Ils partagent leur quotidien avec eux. Donc c'est un quotidien typique de militaires après avoir passé des entraînements de quelques mois. Pour ceux avec qui on a parlé, ils ont été engagés dans les unités d'assaut dans le Donbass. Leur mission, c'était d'aller à l'offensive. Ce qui m'étonnait, c'est que d'autres militaires nous racontent que les soldats russes sur le terrain, on les voit pas très souvent. C'est une guerre de l'artillerie. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agissait vraiment d'aller jusqu'à trancher de l'ennemi. Tout cela, en plus, souvent tourné en GoPro. On a vu ces images dans le film. Cela ressemble beaucoup à ce qu'on aurait pu voir pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors justement, votre film, votre documentaire, quand est-ce qu'on pourra le voir ?
On pourra le voir dès le début de la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube de RFI en russe.
L'adresse
Ervien Russe, vous pouvez aller très facilement le retrouver en ligne.
Voilà, documentaire réalisé par Denis Strelkov de Radio France Internationale.
This is Radio France International.
De Paris, RFI,
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à la situation au Sahel, au Niger. Cela fait pile 9 mois qu'a eu lieu le putsch des militaires. Mélissa Chemam de la rédaction anglophone. Après la France, ce sont maintenant les États-Unis qui sont victimes de l'hostilité du régime envers les pays occidentaux.
Oui, tout à fait. La junte veut désormais le départ des soldats américains. Les deux pays sont en négociation et cela inquiète les Nigériens, mais aussi toute la région du Sahel, car les juntes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali, au Niger ont promis de combattre une importante insurrection islamiste dans la région, mais aucune amélioration n'est visible pour l'instant. L'insécurité augmente même. Alors pour notre podcast Spotlight on Africa, j'ai notamment parlé à Babacar Ndiaye, qui est chercheur à l'Institut Timbuktu, pour comprendre la stratégie des juntes face à ces immenses défis.
The reason why they broke away from ECOWAS is just because they didn't apply ECOWAS protocol
that mandates. Alors, quel est son avis là-dessus?
Alors, il nous dit la raison pour laquelle le Niger, le Mali et le Burkina se sont séparés de la CDAO, par exemple, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas appliquer le protocole qui impose la démocratie, le respect des droits de l'homme, et non, bien sûr, le militarisme. Donc, cette raison de rupture est qu'ils voudraient s'échapper de l'influence et du mandat de la CDAO, qui, notamment, les forçait à organiser des élections cette année. Ils veulent contrôler ce calendrier de retour au pouvoir, et pour l'expert, ils ne pensent donc pas que cela arrivera bientôt, mais même si, officiellement, ça devait être 2024.
Et est-ce que cet expert a espoir que la situation évolue dans le bon sens, on va dire?
Alors, il a un espoir. S'il pense que les élections au Mali au Niger donc, ne sont pas envisageables prochainement, il pense que l'élection au Sénégal est une très bonne nouvelle pour toute la région, car elle peut inciter les populations voisines à croire à nouveau au processus démocratique, et ce pour plusieurs raisons. Écoutons-le.
Very interesting what happened in Senegal, because it was only a referendum in Senegal, Macky Sall, or change your country, but it was a referendum also about is democracy viable in West Africa.
Mélissa, aidez-nous à comprendre.
Alors, il dit que ce qui s'est passé au Sénégal est très intéressant, selon lui, pour toute la région, car il s'agit d'une sorte de référendum entre Macky Sall, l'ancien pouvoir, ou le changement, mais aussi un référendum sur la démocratie. Celle-ci est-elle viable ou non en Afrique de l'Ouest, surtout dans la région avec la succession de coups d'État et d'autres influences de certains pays étrangers pour discréditer la démocratie, nous dit-il. La rue dans ces pays a commencé à adhérer à ce discours selon lequel la démocratie peut-être ne fonctionnerait pas dans la région, et tout le monde s'attendait à ce que le Sénégal tombe dans une situation similaire, le militarisme, les coups. Mais heureusement, les Sénégalais ont raconté une toute autre histoire. Or, pour lui, si le Sénégal avait suivi cette voie, ça aurait été une catastrophe. Donc, bonne nouvelle.
Ces commentaires, cette interview, on peut les retrouver?
On peut les trouver sur notre site. Vous allez sur rfi.fr/en, podcast, et le podcast s'appelle Spotlight on Africa.
Merci, Mélissa Chemam de la rédaction en anglais de Radio France Internationale. Pendant une semaine, la capitale fédérale du Brésil, Brasilia, est le lieu de manifestations des peuples indigènes venus de tout le pays, protestent. Tout cela dans une ambiance festive, mais combative. C'est le campement Terra Livre qui a cette année 20 ans. Lucien Mouzel, de la rédaction brésilienne. C'est également l'occasion pour ces peuples de tout simplement se rencontrer entre eux.
Tout à fait, car il faut bien avoir en tête que parmi les 1 700 000 indigènes brésiliens, selon les données officielles, il y a une énorme diversité. Ce sont plus de 300 ethnies différentes, 270 langues parlées. Plus de la moitié d'entre eux vivent dans l'Amazonie, dans des territoires qui sont isolés ou pas, mais toutes les régions brésiliennes en recensent. Le campement donc Terra Livre est en effet une occasion unique dans l'année de mettre en valeur ces différentes cultures, ces habitudes, ces croyances aussi, car chaque peuple a les siennes. Préserver cet héritage, c'est un des plus grands défis des peuples autochtones aujourd'hui. Ils sont attaqués de partout, exposés de plus en plus au mode de vie urbain. Donc écoutons le témoignage de Kayla Barbosa du peuple Tupiniquim, installé dans le village rural au sud-est brésilien. Elle n'a que 16 ans et elle a été interviewée par notre correspondante à Brasilia, Raquel Miura.
A gente geralmente faz noite cultural lá, né? Geralmente de 15 em 15 dias, onde a gente conversa com os nossos anciãos. Onde a gente
que diz cet habitant du village de Cairas Velas, en français?
Elle raconte que dans sa communauté, ils ont l'habitude de faire tous les 15 jours une nuit de rencontre avec les anciens pour écouter leurs histoires autour du feu, des danses typiques et au son des tambours. Elle dit que c'est là qu'elle aime vivre, un endroit qui est paisible pour elle et pas du tout en ville. Elle ne se reconnaît pas du tout dans nos modes de vie, dans les villes agitées, comme elle dit.
Certains peuples vivent en zone rurale, d'autres dans des villes ou alors dans des banlieues. Est-ce que tous ces gens sont en sécurité là où ils vivent?
En fait, historiquement, ils y sont autour des villes, ceux qui sont. Ils ont été expulsés de leurs territoires originaux et ont été obligés de s'y adapter. C'est une menace permanente. Cette réalité-là nous rappelle en permanence aussi de l'importance de préserver leur terre ancestrale. Cet autre jeune, Terry Taoka, vit proche de la mer dans l'état de São Paulo. Il a du mal à parler le portugais, la langue officielle brésilienne, mais il exprime très clairement sa peur de perdre cette terre où il est né.
A paz, né? Pour les crianças ficar felizes, assim, para se divertir na aldeia, tá meio devagar, sim. É meio difícil, né, assim, para o movimento.
Mais, expliquez-nous ce qu'il vous a raconté sur votre antenne.
Il dit qu'il souhaite avoir la paix, que les enfants puissent grandir et jouer dans leur village, mais sans crainte. Il pense que les délais sont trop longs aujourd'hui pour que leur terre soit reconnue en tant que telle et donc soit plus protégée. C'est pour cela qu'il est là à manifester à Brasilia aussi.
Alors, du côté du gouvernement maintenant, la ministre de l'Environnement, qui s'appelle Marina Silva, a prononcé un discours. Mais est-ce que le président Lula participe à tout cela?
Cette fois, il n'a pas été invité, contrairement aux deux années précédentes. La première en tant que candidat pour la présidentielle en 2022, et la deuxième déjà en tant que président l'année dernière. Cette décision de ne pas l'inviter représente en fait un avertissement de la part des peuples autochtones. Leur mécontentement à l'égard des actions du gouvernement est croissant. Ils estiment que la création du premier ministère des peuples indigènes n'a pas été accompagnée de mesures effectivement fortes pour leur protection. Un exemple, il y avait beaucoup d'espoir de voir avancer la reconnaissance d'environ 250 territoires indigènes partout dans le Brésil. Mais après une très longue attente, seulement 2 terres viennent d'être officialisées la semaine dernière, ce qui est une forte douche froide.
Pourquoi est-ce que ce processus est-il aussi long?
Souvent, on parle de terres qui sont convoitées par l'agro-business pour la production agricole, mais aussi par l'exploitation minière illégale, l'extraction de bois. On ne peut pas oublier que de l'autre côté, le lobby anti-peuple aux autochtones est beaucoup plus puissant, en fait, à cause de ses intérêts économiques et commerciaux qui sont colossaux. Ils arrivent à retarder toujours plus ces processus de reconnaissance des territoires traditionnels. Devant ce campement Terra Libre, en début de la semaine, la ministre des Peuples indigènes, Sonia Guajajara, a reconnu qu'il existe encore beaucoup à faire.
Nós precisamos aqui de mais vozes. Nós estamos aqui enfrentando dos maiores desafios da história.
Donc elle prononce un discours, quelle en est la teneur?
Elle dit que les peuples autochtones ont besoin de plus de voix pour leur défendre, car ils sont devant un des plus grands défis de leur histoire, selon elle. Elle se dit légitime, elle-même étant du peuple Guajajara, pour mener ce combat, mais elle reconnaît que ce n'est pas assez. Il faudra plus de présence indigène dans la scène politique brésilienne pour faire vraiment avancer leurs droits le plus rapidement possible.
Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait donc 1 700 000 indigènes au Brésil sur une population totale de...
On est 220 000 là. Millions, pardon.
220 millions d'habitants. Oui. Largement trois fois la population française. Preuve que c'est un très grand pays.
C'est une mini-Europe, là, le Brésil, en termes de territoire.
Juste un mot, Denis, tout à l'heure, on entendait dans vos témoignages qu'il y avait des Brésiliens qui partaient en Ukraine. Vous avez pu également le documenter
Au début de la guerre, oui. Et justement, j'étais très intéressée. Je voulais parler à Denis après parce que...
Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de personnes de l'Amérique latine qui partent en Ukraine se battre sur le côté ukrainien. On a quand même beaucoup entendu que ce sont des Colombiens, notamment, qui sont plus nombreux que les Brésiliens. La raison, pour l'instant, on l'ignore.
Juste après la fin de cette émission, vous allez en parler pour mettre au point quelque chose sur vos antennes respectives. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.